Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le viol des foules par la propagande politique, de Serge Tchakotin, est un essai majeur de psychologie sociale et de sociologie politique. Publié initialement à la veille de la Seconde Guerre mondiale, puis considérablement augmenté après-guerre. Biologiste et militant socialiste d'origine russe, l'auteur s'appuie à la fois sur les théories des réflexes conditionnés, sur l'étude des comportements collectifs et sur son expérience directe de la lutte contre le national-socialisme en Allemagne. Son objet est d'expliquer comment une propagande organisée peut orienter les émotions, les croyances et l'action d'une population. Tchakotin examine le pouvoir des symboles, de la répétition, des rassemblements et de l'identification à un chef, en prenant principalement les mouvements fascistes et nazis comme terrain d'analyse. Le livre ne se limite pas à dénoncer la manipulation. Il cherche aussi à comprendre comment une démocratie peut opposer une contre-propagande sans renoncer à ses fins politiques et morales. Son intérêt actuel tient à cette interrogation durable sur la fabrication de la volonté collective. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la propagande comme conditionnement organisé des réactions collectives. Tchakotin interprète une part importante de la propagande politique à partir de la théorie des réflexes conditionnés associés aux travaux de Ivan Pavlov. Son idée directrice est que les conduites politiques ne procèdent pas seulement d'un examen rationnel des programmes. Elles peuvent être façonnées par des stimulations répétées qui lient un signe, un mot d'ordre ou une image à des réactions affectives telles que la peur, la fierté, la colère ou le sentiment d'appartenance. La propagande devient alors une technique d'organisation des réponses plutôt qu'un simple effort de persuasion intellectuelle. Cette grille permet à l'auteur d'analyser la force politique des slogans brefs, des emblèmes visuels et des rituels collectifs. Leur efficacité vient de leur capacité à simplifier une situation complexe et à produire des associations rapides, reconnaissables et émotionnellement chargées. L'analyse comporte toutefois une limite historique: réduire trop strictement la politique à des réflexes risque de sous-estimer les intérêts sociaux, les convictions et les choix conscients des individus. Mais le modèle conserve une portée critique, il invite à étudier non seulement le contenu explicite d'un message, mais sa répétition, son environnement visuel, son rythme et les émotions qu'il active. Tchakotin montre ainsi que la vulnérabilité des publics dépend aussi des formes concrètes de circulation des messages. Deuxièmement, le meneur et la substitution de l'identification au jugement individuel, une autre thèse centrale concerne le rôle du meneur dans la formation des foules politiques. Pour Tchakotin, le chef charismatique ne convainc pas uniquement par la qualité de ses arguments. Il concentre des attentes, des frustrations et des désirs d'unité auxquels les individus peuvent s'identifier. Dans une foule mobilisée, cette identification peut diminuer la distance critique entre le citoyen et celui qui parle en son nom. Le meneur transforme alors une diversité d'expériences en une émotion partagée et en une direction apparemment simple. L'auteur rapproche cette emprise d'un mécanisme d'hypnose sociale, non pour décrire une passivité absolue, mais pour souligner l'intensité de la suggestion dans certaines situations collectives. La voix, la gestuelle, la mise en scène et la présence de symboles communs renforcent l'impression que le chef incarne le groupe tout entier. Cette analyse éclaire la fonction politique des grands rassemblements, où chacun reçoit de la foule la confirmation visible de sa propre adhésion. Elle ne signifie pas que tout leadership soit nécessairement manipulateur. Elle impose plutôt une distinction entre l'autorité soumise à la discussion et le culte du chef, qui rend la contradiction suspecte. Le livre aide ainsi à reconnaître les conditions dans lesquelles la personnalisation du pouvoir fragilise l'autonomie du jugement. Troisièmement, le nazisme étudié à partir de techniques visibles de mobilisation. La singularité du livre tient largement au fait que Tchakotin analyse la propagande nazie depuis l'expérience d'un opposant engagé dans l'Allemagne des années 1930. Il ne traite donc pas le fascisme comme une abstraction, mais comme un système de mobilisation qui associe signes graphiques, disciplines militantes, spectacles de masse et messages émotionnels. Les emblèmes, les défilés, les uniformes et les formules répétées n'apparaissent pas comme des ornements secondaires. Ils servent à rendre une force politique immédiatement perceptible, à imposer sa présence dans l'espace public et à créer une impression de cohésion et d'inéluctabilité. L'intérêt de cette approche est de relier la propagande à des pratiques matérielles: occuper les murs, rythmer les rues, organiser les foules et transformer le regard quotidien. Tchakotin insiste aussi sur le fait que de telles méthodes prospèrent dans un contexte de crise, de peur et de désorientation politique. Elles ne créent pas nécessairement tous les ressentiments qu'elles exploitent, mais elles leur donnent une cible, un langage et une forme d'action collective. Cette lecture concrète évite de présenter la propagande comme une puissance magique. Elle la montre comme une organisation méthodique, des affects et des occasions de participation. Elle demeure essentielle pour comprendre pourquoi le visuel et le cérémoniel peuvent compter autant que le discours doctrinal. Quatrièmement, les trois flèches et le problème d'une contre-propagande démocratique, Tchakotin ne se contente pas de disséquer les procédés de ses adversaires. Il défend la nécessité d'une contre-propagande capable de répondre à leur efficacité symbolique. Son expérience liée aux trois flèches, emblème antifasciste conçu dans le contexte allemand du début des années 1930, illustre cette orientation. Ce signe simple pouvait notamment barrer visuellement une croix gammée et affirmer dans le même geste une opposition politique visible. Pour l'auteur, une démocratie qui renonce entièrement aux images, aux signes d'unité et aux formes mobilisatrices laisse le terrain affectif aux forces autoritaires. La question N est donc pas de choisir entre une politique rationnelle sans communication et une manipulation totale. Elle est de savoir à quelle fin, avec quelles limites et sous quel contrôle sont employés les instruments de persuasion collective. Cette position est inconfortable, car elle admet que les techniques de mobilisation ne sont pas moralement neutres tout en refusant de les abandonner au mouvement antidémocratique. Le livre permet ainsi de penser une tension qui reste actuelle, une cause pluraliste peut avoir besoin de messages accessibles et de symboles fédérateurs. Mais elle se contredit si elle exige une obéissance irréfléchie. La contre-propagande envisagée par Tchakotin vaut surtout comme appel à défendre l'espace public contre la monopolisation des signes et des émotions par les extrémismes. En dernier lieu, une critique de la machine à décerveler et des vulnérabilités modernes dans la version augmentée de son ouvrage. Tchakotin élargit son inquiétude au conditionnement des êtres humains par ce qu'il désigne comme une machine à décerveler. Cette expression vise la possibilité qu'une communication politique et sociale massivement organisée réduise les personnes à des réactions prévisibles, au profit de pouvoirs autoritaires ou d'intérêts dominants. Le propos dépasse donc la seule histoire du nazisme, même si celle-ci demeure son exemple principal. Il pose une question générale sur les sociétés de masse, comment préserver une capacité de jugement lorsque l'attention est continuellement sollicitée par des messages simplificateurs et des appels aux réflexes émotionnels. L'intérêt du livre est moins de fournir une recette définitive de protection que d'établir une méthode de vigilance. Il faut observer qui parle, quels symboles sont employés, quelles émotions sont stimulées et quels comportements sont attendus du public. Cette démarche invite également à distinguer l'information de la mobilisation, car un message peut être factuellement exact tout en étant construit pour susciter une adhésion automatique. Certaines catégories biologisantes de Tchakotin portent la marque de leur époque et ne suffisent pas à expliquer toute la complexité des médias contemporains. Néanmoins, son analyse conserve une force intellectuelle, elle rappelle que la liberté politique dépend aussi des conditions psychologiques et symboliques dans lesquelles les citoyens forment leurs opinions. En conclusion, le viol des foules par la propagande politique s'adresse en priorité aux étudiants et chercheurs en histoire politique, sociologie, communication et psychologie sociale, mais aussi aux lecteurs qui veulent comprendre les ressorts concrets de la mobilisation autoritaire. Les professionnels de l'information, de l'éducation civique ou de la communication publique y trouveront moins un manuel immédiatement transposable qu'un cadre exigeant pour interroger les images, les slogans, les rituels et la personnalisation du pouvoir. La lecture demande une attention critique, car le vocabulaire physiologique de l'auteur et son recours aux réflexes conditionnés reflètent les débats scientifiques de son temps. Il serait réducteur d'y voir une explication complète des engagements politiques. Cependant, cette limite n'annule pas la valeur de son intuition principale, les opinions collectives se forment aussi par des dispositifs affectifs, visuels et sociaux, et non par la seule délibération rationnelle. L'ouvrage se distingue des traités plus abstraits sur la propagande par son double ancrage. Il combine une ambition théorique fondée sur la psychologie des comportements et le témoignage d'un acteur de la résistance antifasciste allemande. Son étude des trois flèches donne en outre une place inhabituelle au dilemme de la réponse démocratique, combattre une propagande efficace sans reproduire l'asservissement qu'elle produit. Cette articulation entre diagnostic des mécanismes et réflexion sur la riposte explique la place durable du livre dans l'histoire de la psychologie des masses. Si vous souhaitez soutenir Serge Tchakotin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.